la soirée. La soirée se finit avec le New York City Girls. Le samedi, ça recommence à 4 heures, donc un matin pour faire du tourisme dans les alentours et dormir. Ça commence à 4 heures et ça dure jusque tard dans la nuit avec un concert avec deux groupes de femmes, Pigs in Space, qui sont un groupe de femmes punk rock, et Lax of Loublou, qui c'est quoi, du pop mélancolique. Alors ça, c'est intéressant.
Et ça, c'était pas mon rayon de m'occuper des concerts.
Donc là, une grande et longue soirée, et puis ça reprend le samedi matin à partir d'11h30 et jusqu'à 16h30, à laquelle est programmée une performance avec et de Gabriella Forster. Alors voilà un grand programme pour ce week-end du 5, 6 et 7 mars. Une chose exceptionnelle, c'est pas toujours le Valais ou Lausanne ou le Jura. Non, ce sera The Fingen pour une fois. Mm-hmm. Ciao Isabelle, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Voilà, alors The Fingen, j'espère que vous aurez envie d'y aller dans 15 jours, histoire de passer un week-end d'ailleurs que vous passez d'habitude, comme nous le disions, en compagnie d'Isabelle Eckling. Merci Isabelle pour cette rencontre. Là, tout de suite, je vous propose un extrait d'un concert qui a eu lieu il y a longtemps, parce que ça date de septembre 88, mais les Goldies, il faut souvent se les remémorer. Un concert qui avait été organisé à part la radio suisse romande durant le Festival de la Bâtie, et c'était un groupe de 9 femmes, 9 filles anglaises avec un batteur, le pauvre. 3 chanteuses, 2 saxophonistes, une trompettiste, une guitariste, une bassiste et une femme au clavier, et c'est les Deltones.
Thank you.
c'est les Deltons en concert, 9 femmes et 1 musicien.
Okay, this one's Stay Where You Are.
Les Deltones en 1988, un groupe de 9 filles anglaises, 3 chanteuses, 6 musiciennes, pour nous donner cette musique endiablée, inspirée de plein de ska. Alors, je vous le disais tout à l'heure en deuxième partie d'émission, et pour le moment qui nous reste, eh bien, je vous donnais quelques extraits d'articles qui m'ont plu, qui m'ont intéressé dans les nombreuses revues et journaux qui nous passent souvent sous les yeux. Et entre autres les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires que l'on trouve dans la région romande de Genevoise en particulier. Un article avait attiré mon attention il y a environ 3 semaines qui titrait « 5 prix Nobel défendront à Genève le peuple de Birmanie ». Et ce titre se rapporte à ce qui se passe en ce moment à Genève. En effet, ces 5 prix Nobel sont venus à Genève le 21 février dernier et ils entendaient favoriser l'instauration de la démocratie en Birmanie et obtenir la libération de Madame Aung San Suu Kyi. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais c'est cette femme qui a obtenu le prix Nobel de la paix l'année passée, ou il y a 2 ans, est-ce que je me trompe, et il y a 2 ans, voilà, merci Viviane, et qui est toujours sous résidence surveillée en Birmanie, où il règne encore la dictature. Alors l'association Suisse Birmanie souhaitait un coup d'éclat médiatique et a réussi cette opération puisqu'il y a eu d'abord une conférence de presse où avait été annoncée la venue à Genève des 5 lauréats du prix Nobel de la paix, à savoir Rigoberta Menchú, le prix Nobel de cette année, Oscar Arias Sánchez du Costa Rica, Adolfo Pérez Esquiwel d'Argentine, une représentante d'Amnesty International, Merid McGeer et Betty Williams qui venaient d'Irlande. Et toutes ces personnes ont annoncé leur présence à la Commission des droits de l'homme à l'ONU à Genève. Voilà, alors en l'occurrence, toutes ces personnes sont venues à Genève. Vous avez pu les voir peut-être sur vos écrans de télévision ou à la radio. Elles étaient là pour plaider la cause du peuple birman et demandant la libération de Madame Aung San Suu Kyi. Et en l'occurrence, Rigoberta Menchú, que nous avions regretté ne jamais avoir interviewé lorsqu'elle a obtenu le prix Nobel de la paix, eh bien peut-être que nous aurons la chance de la rencontrer. Et c'est très difficile d'arriver jusqu'à elle. En tout cas, elle est extrêmement prise, la pauvre. Elle circule toutes les minutes, chacun veut la gripper. Peut-être aurons-nous cette chance. En tout cas, on s'efforce de le faire, on peut vous le dire. Mais si jamais, vous pourrez l'entendre demain soir à 20h30 à l'Institut des études pour le développement à Genève. Voilà. Alors, je voulais vous lire un texte que j'ai trouvé dans la revue Femina hebdomadaire qui évoque la situation au Guatemala et une des raisons pour lesquelles, entre autres, Rigoberta Menchú court à Genève puisqu'elle rencontre l'association Enfants du Monde qui soutient un projet justement à propos des enfants au Guatemala qui vivent dans la rue et souvent dans la rue vivent l'enfer. Comme on a déjà évoqué la question pour des enfants au Brésil, on a déjà aussi parlé un petit peu de la situation au Guatemala. Alors, je vous lis un extrait de cet article. Cet article a été écrit par une femme et c'est un témoignage. Elle a vécu cette histoire elle-même et c'est Annick Hermette. Même t-shirt rouge en haillons, même mèche et éventail au-dessus de l'œil, c'est bien lui. J'ai retrouvé cet enfant croisé 2 soirs plus tôt dans la 4e rue du centre de la capitale, Guatemala City, Ciudad. J'apprends qu'il se nomme Elwin, un prénom made in USA très prisé dans les bidonvilles de Guatemala City. Il a 16 ans, je ne lui en donnais pas plus de 12. Lui ne m'a pas reconnu, je lui rappelle notre rencontre. Il était 8 heures passées ce soir-là, j'étais pressée de rejoindre mon hôtel, pas très rassurée par l'obscurité de cette petite rue désertée, lorsqu'il a soudain surgi d'un renfoncement, un bras tendu en avant. J'ai fait un bond en arrière, il n'avait pas de mauvaises intentions, sa silhouette enfantine et son regard noyé par les vapeurs de la colle n'avaient rien d'agressif, mais... déjà, j'avais fui. Son pauvre sourire et des mots qui disaient qu'il voulait juste me toucher le bras m'ont atteinte trop tard, après la peur. Trop tard, il avait disparu avec sa demande maladroite de chaleur humaine, abandonné à la nuit d'une capitale brutale. « Mais Elwin ne m'en veut pas, il comprend, dit-il. Les nuits sont dangereuses, il y a encore 3 touristes qui ont été abattus pour être volés. » Peu à peu, il lâche son histoire, par bribes. Il a perdu la trace de sa mère, ou plutôt, dit-il, il est certain qu'elle n'habite plus là-bas, dans une cahute accrochée au faubourg misérable de la capitale. Il n'y est pas retourné depuis 5 ans. C'est là qu'il vivait quand il était petit avec ses 4 frères et sœurs. C'était l'époque où sa vie avait encore un peu de sens. Il partait travailler à l'aube en même temps que sa mère, employée de maison. Il vendait des bricoles, bonbons, chewing-gum à l'unité. Il avait 6 ans. Et puis, en grandissant, il s'est posté au feu rouge des grands carrefours. Il remontait les files de voitures pour vendre le journal au conducteur. Un boulot épuisant, mais qui lui a permis de réaliser les économies nécessaires à l'achat d'une boîte à cirer les chaussures avec repose-pied. Il s'est fait cireur dans le parc Concorde. C'était mieux, dit-il. Il avait 9 ans, ça marchait bien. Il arrivait à se nourrir et à ramener quelques sous à la maison. Mais sa mère a rencontré un homme. « Celui-là, dit-il, il cognait dur. J'ai commencé à éviter de rentrer. Au début, j'allais chez l'un ou chez l'autre et puis, petit à petit, on s'y fait. Je me suis habituée à dormir dehors. Un jour où ma mère n'était pas là, le vieux a dit qu'il me ferait la peau s'il me voyait traîner dans les parages. Il en était capable. » C'est à cette époque qu'Elwin a lâché prise. Il dit qu'une nuit, on lui a piqué sa boîte à cirage, raison pour laquelle il s'est mis à la fauche. Il inhalait déjà quotidiennement de la colle de cordonnier. Leur dose d'ivresse et d'oubli, les enfants se la procurent sans difficulté. Elle sert à l'encollage des sandalettes, bottes ou sacs que les touristes achètent aux étalages des rues. Difficile d'en interdire la vente aux mineurs qui sont nombreux à travailler dans les petits ateliers. De toute façon, des adultes se chargent de pourvoir les enfants en manque. Pour 10 centimes, ceux qui acceptent de passer la nuit dans la maison bleue d'une ruelle proche du terminal de bus de la zone 4 repartent au petit matin avec une poche plastique généreusement remplie. Les enfants ne parlent pas facilement de ce qui se passe dans cette maison. Depuis, les casse ont disparu définitivement. Les nombreuses dénonciations déposées par les organismes non gouvernementaux de protection de mineurs ont provoqué quelques descentes de police, laquelle prétend imperturbablement n'avoir rien constaté d'anormal. Maigres, crasseux, des enfants de tous âges végètent par grappes aux abords de la maison bleue. Ils se nourrissent des ordures ménagères que les habitants jettent dans un coin. L'étrangère que je suis n'aurait pu s'engager sans risque dans ce boyau sordide sans la présence à ses côtés d'éducateurs spécialisés dans le travail de rue. Ils sillonnent chaque matin le cœur de la ville, ses marchés, ses places, ses replis où les enfants se terrent. Ils dépendent de la Casa Alianza, institution qui gère des foyers d'accueil, des programmes de réinsertion et de désintoxication pour les enfants des rues. Une vaste tâche. On estime de 15 000 à 30 000 le nombre des enfants abandonnés à eux-mêmes. On ne peut plus grand-chose pour eux, pour ceux qui échouent ici, me souffle Mario, un éducateur. Ils n'arrivent plus à ressortir de la ruelle. Peut-être même ont-ils oublié qu'au bout, il y a une autre rue, des maisons, des gens. À l'arrivée de l'équipe éducative, les corps affalés se redressent, les regards s'animent et redeviennent soudain enfantins. Mario engage la conversation, sort des crayons de couleur. Sur un bord de trottoir, une partie de dominos s'engage. Un peu en retrait, un gosse s'en serre la taille d'une éducatrice, longuement, sans bouger, visage enfoui dans sa poitrine. On désinfecte une plaie, l'enfant se tortille, les autres rient. Une heure ou deux passent remplies de tous ces petits riens qui nourrissent les enfants d'un peu d'humanité. Ils parlent, ils racontent les événements terrifiants de ces derniers jours. Leurs propos, apparemment dénués d'émotion, sont ponctués d'un geste furtif. Ils ne cessent de téter le sac plastique caché sous le t-shirt qui conjure leur angoisse. Par ces visites régulières, les éducateurs cherchent à tisser des liens qui donnent aux vies aux enfants de quitter cet enfer. Au fil de leur tournée quotidienne, ils tentent de les amener au refuge, mis sur pied par la Casa Alianza. Le droit d'entrée est élevé, il se paye par l'abstinence. On ne franchit la grille que si l'on ne sent plus la colle. Mesure imposée par les éducateurs pour protéger des rechutes les enfants sevrés. À elle seule, l'odeur suffit à affoler les sens, réenclencher les mécanismes de dépendance. Il faut 7 heures pour que l'odeur s'échappe. 7 heures pendant lesquelles les enfants qui désirent se désintoxiquer sont laissés seuls avec eux-mêmes, dans la rue, en proie aux angoisses que la drogue avait engourdies. Nombreux sont ceux qui essayent, qui échouent parce qu'il manque une passerelle entre rue et refuge. Si Elwin a accepté de me livrer son témoignage avec les risques que cela implique, c'est parce qu'il a toute confiance dans l'éducateur qu'il m'accompagne. Il y a 2 ans, le 9 avril 1990, il a été victime d'une agression avec 5 autres enfants de 8 à 14 ans. Ça s'est passé vers 11 heures du soir, raconte-t-il. À l'époque, avec des copains, on se retrouvait sous le pont Amat et près de la 20e rue. On se cachait derrière les tas d'ordures, tout au fond, comme ça on pouvait dormir tranquille. Mais cette fois, on a été surpris par les forces de sécurité. Ils étaient 4, armés. Moi, j'ai pu me sauver avec les 3 autres, mais pas les 2 derniers. On est restés cachés longtemps, mais on voulait savoir ce qui s'était passé. On est retourné au pont. On les a retrouvés. Ils saignaient, parce qu'ils avaient pris des coups, mais ça, c'était rien. Ils s'étouffaient, ils vomissaient. Les policiers leur avaient fait avaler leur sac plastique plein de colle. Ils essayaient de les rejeter, mais ils n'y arrivaient pas. J'ai vu qu'ils allaient en mourir. Je suis allée chercher des secours à la Casa Alianza et on les a emmenés à l'hôpital. Il était trop tard pour effectuer un lavage d'estomac. Les sacs étaient déjà dans les intestins et les enfants ont survécu avec des dommages internes irréversibles. Plainte a immédiatement été déposée par l'institution, mais l'enquête n'a pas abouti, quand bien même on savait que le groupe d'agresseurs était composé d'un soldat en tenue camouflée, de 2 agents de l'unité spéciale des services intégrés de la police et d'un policier de la 5e circonscription de la capitale. Les 2 enfants avaient d'ailleurs reconnu l'un d'eux. Pablo, qui suit Elwin comme son ombre, lui a aussi quelque chose à dire. Il a été pris dans une rafle de la Hunapu, une unité composée de membres de la police militaire et des forces armées. Et passé à tabac. Il a reçu des décharges électriques du baston chino, sorte de matraque. Il ne dit pas que plusieurs mois auparavant, des policiers se sont amusés à lui voler ses chaussures, y verser de la colle, y mettre le feu. Souvenir trop humiliant. Aller sans chaussures affiche la misère extrême, explique l'éducateur. Cela rappelle également aux enfants leurs origines indiennes qu'ils refoulent de toute leur force. Bien qu'ils constituent 65% de la population guatémaltèque, les descendants mayas subissent de graves préjudices racistes que l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Indienne Rigoberta Menchú a remis en mémoire. En quittant leur communauté villageoise perchée dans les montagnes, ces enfants sont brutalement propulsés dans un monde moderne qui les classe dans une race inférieure. Pablo, lui, n'est pas guatémaltèque. Il est de ces milliers d'enfants qui ont fui les zones de guerre des pays voisins. Il rêvait de Guatemala Ciudad. Je savais qu'ici, je pourrais faire du commerce. Là-bas, au Salvador, il n'y a pas de touristes. Pablo reste flou sur le type de négoce qu'il pratique. Mais son petit frère, Juancito, me raconte en mimant comment, fonçant avec agilité dans les rues les plus passantes, ils arrachent leurs montres aux touristes avant de disparaître dans la foule. Pablo et Juancito vont revendre leur butin aux puces du grand marché de Barajuste. Des plus glauques et quelques-uns en retrait de l'ensemble, ils sentent le trafic à plein nez. Les rumeurs disent qu'ils rapportent pas mal à certains gradés militaires. C'est plus qu'évident, insiste un guatémaltèque de la capitale. Sinon, comment ces enfants, par ailleurs pourchassés par les polices, oseraient-ils s'aventurer dans cette souricière où il serait si facile de les cueillir ? Bien des enfants affirment voler pour le compte des policiers, sous la menace de la prison. Corruption et violence tissent la trame de la société guatémaltèque. L'espérance, née de l'accession au pouvoir en 1986 après 20 ans de dictature militaire d'un président de la République, n'a pas porté ses fruits démocratiques. Bien que l'armée ne mène plus ses opérations systématiques de destruction, plus de 100 000 personnes ont ainsi péri, la répression reste sanglante. Malgré les menaces de mort, les multiples pressions, la Casa Alianza a décidé de défendre les enfants des rues victimes d'agressions jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à condamnation des agresseurs. Un objectif ambitieux dans une société où impunité est loi. Tout a commencé en mars 1990 avec l'assassinat de Nahaman Carmona, raconte Raúl Toleda, un avocat qui coordonne ses actions judiciaires et qui me tend la photo d'un enfant d'une douzaine d'années. Nous le connaissions bien parce qu'il avait fait plusieurs tentatives de réinsertion, mais il n'arrivait pas à supporter bien longtemps la vie réglée d'une institution. Plus un enfant passe de temps dehors et plus réduites sont ses capacités de réadaptation. Arrivait le moment où, plus puissante, la drogue et la rue le reprenaient. De temps en temps, il passait nous rendre une petite visite. Et puis, il y a eu cette terrible nuit. Une douzaine d'enfants, recouverts de carton, serrés en boule les uns contre les autres pour lutter contre le froid, aspirent goulûment leur dose de colle. Lorsqu'une patrouille de police les surprend en flagrant délit d'inhalation. Tous n'ont pas le temps de détaler. Les policiers s'adonnent à leur jeu favori, étaler la colle sur le crâne des enfants et parfois y approcher la flamme d'un briquet. Nahaman est l'un des plus grands. Il en paraît tout juste 10, mais il a déjà 13 ans. Quand son tour arrive, il se rebelle. Les policiers le jettent à terre et se déchaînent sur lui, le bourrent de coups de pied et le laissent pour mort. Mais en passant, le fait conduire à l'hôpital. Il a le foie éclaté, 6 côtes et 2 doigts brisés, le corps recouvert à 75% d'hématomes. L'enfant mourra 10 jours plus tard. Les responsables de la Casa Alianza n'auraient rien su si par hasard une assistante sociale en visite à l'hôpital n'avait pas reconnu Nahaman. Les souffrances qu'il a endurées puis sa mort ont été un choc brutal pour nous tous. À vrai dire, il n'était pas le premier enfant assassiné dans la rue. Mais c'était un de nos enfants, pas un mort anonyme. On aimait ce gosse, il était mort à la suite de brutalité policière. C'était douloureux et inacceptable. Il nous était impossible de classer l'affaire, nous avons porté plainte. Pour la première fois, des policiers ont comparu pour une affaire d'homicide d'enfants des rues au Guatemala. Ce pays qu'Amnesty International place au 8e rang des records de violation des droits des mineurs et qui paradoxalement a été l'un des premiers à ratifier la Convention internationale des droits des enfants. Les faits sont accablants. Pour 62 cas d'agression d'enfants portés devant les tribunaux, il y a 50 membres des forces de sécurité en cause. Des policiers portant ou non l'uniforme, reconnus par des témoins, et des agents de sociétés privées de sécurité qui, selon les rapports d'Amnesty, agissent avec l'autorisation de la police nationale et du ministère de l'Intérieur. Le nombre de délits enregistrés, précise Raúl Toleda, ne représente qu'une infime fraction des actions commises depuis 2 ans, car rares sont les survivants qui osent affronter au grand jour leurs agresseurs. Peu après l'assassinat d'Aman, 8 enfants ont été enlevés par des hommes armés à bord d'une jeep. Les corps de 3 d'entre eux ont réapparu, langue et oreilles coupées, avec une balle dans la nuque. Tel est le sort réservé à ceux qui ont vu, entendu et se risqueraient à parler. Les 5 autres enfants n'ont jamais été retrouvés. Casa Alianza a obtenu du juge d'instruction le droit de dissimuler le visage des enfants témoins sur des cagoules lors de reconstitution. Cela n'empêche pas que des policiers recherchent activement les témoins cités à comparaître. Francisco T, qui a vu le meurtre de son ami Nahaman, a été enlevé et battu par deux individus non identifiés. Vilma Yanet, une femme policier témoin oculaire de l'assassinat de Nahaman, a finalement dû se réfugier au Canada après trois déménagements précipités, laissant ses filles et son mari au Guatemala. Le personnel de Casa Alliance est également happé dans cette spirale de violence. Éducateurs appréhendés sans justification, menaces par téléphone adressées nominativement. Jusqu'à la standardiste qui a reçu ce message. « Nous voulons juste te prévenir que tu es condamné. Si tu ne quittes pas la Casa Alianza, nous allons te tuer. » L'institution bénéficie heureusement des protections qui lui valent ses racines nord-américaines et ses puissants appuis politiques et financiers. Des associations guatémaltèques ont vu leur rang décimé par les assassinats répétés. Défendre les droits de l'homme, appartenir à une organisation indienne, mettre sur place des cours d'alphabétisation, enseigner la catéchèse, bref, toute activité sociale ou humanitaire est considérée au Guatemala comme un acte subversif. Après deux lentes années de procédure, les quatre officiers de police accusés du meurtre de Nahaman ont été reconnus coupables d'homicide par le 5e tribunal de la première instance et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 8 à 12 ans de prison. Une grande victoire, et pourtant seulement un tout petit pas dans cette lutte engagée contre les meurtres d'enfants. Le 25 avril dernier, trois jours avant le procès, un véhicule s'est arrêté devant le refuge de la Casa Alianza. Un homme en est sorti. Il s'est approché de l'entrée et a crié. « Le mieux que je puisse faire est de déposer une bombe et d'en finir avec tous ces enfants. Je peux tuer n'importe qui et sortir de prison au bout d'une demi-heure. » C'était un texte d'Annick Hermet paru dans Femina.
Je suis concierge rue de Bussy. Dans mon immeuble, il n'y a que des penseurs. C'est moi que je suis leur égérie. Je fume la pipe et je mange des fleurs. Je suis décadente. Le matin, quand je fais mes escaliers avec mes pauvres jambes avarices, je pense à Sisyphe et son rocher qui retombait dans un précipice. Je suis décadente. Quand Ernest, il veut me faire ma fête, je lui dis à quoi bon, Thérèse amère. Il me répond pourquoi pas, c'est bête, j'ai épousé un gars primaire. Je suis décadente. Quand je me sens trop lasse, sur ma porte je colle un papier. Je mets la concierge et dans l'angoisse qu'il se débrouille pour le courrier. Je suis décadente. Mais le suicide quotidien, ce n'est vraiment pas une vie. Le désespoir, ça n'est pas sain. On s'en lasse et ça on les dit d'être décadente. Sentir qu'on n'est rien ici-bas, cela conduit à tous les vices. Fumer de la marijuana, c'est mauvais pour mes rhumatismes. Je suis décadente. Le désespoir, j'en ai ma dose. Je vais prendre une place à Passy. Là au moins je serai quelque chose. Et puis j'aurai foi en la vie. Méritante. Je vais avoir un rôle et d'être voix. Je me peindrai plus les ongles en noir. Je mangerai un yaourt tous les soirs. Quand je serai psychiatre, avenue Mozart.
C'était Brigitte Fontaine dans 17-1, première chanson décadente et fantasmagorique. Je vous en propose une autre.
Pourquoi que t'as pris mon oreiller? Pourquoi que t'as pris mes beaux souliers, mon pain, mon vin et ma petite sœur pour la faire mendier rue Jules Coeur? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement, tu comprendras. C'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as pris l'homme de ma vie simplement pour passer la nuit? Pourquoi que t'as laissé ton vieux père dans un caniveau l'autre hiver? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as mis du verre pilé dans le café du vieil Amédée dont tu as pris l'appartement une heure après l'enterrement? c'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, voici pourquoi je suis égoïste. De l'art, charmant endroit pour passer ses vacances. Faut être fou pour y trouver la chance.
Voilà pour aujourd'hui, Remue-Ménage c'est terminé et dans quelques instants, eh bien, la pleine lune entrera dans vos oreilles par les informels. À la semaine prochaine.
La patience et la rage.